Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 19h38 sur Europe 1 et on vous parle maintenant d'un univers qui représente à lui seul 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le numérique pollue plus que l'aviation civile, c'est le résultat de votre enquête, de vos recherches. Bonsoir Juliette Duquesne.
Bonsoir.
Vous qui êtes journaliste et qui publiez « L'humain au risque de l'intelligence artificielle » dans la collection Carnet d'alerte que vous avez lancée avec Pierre Rabhi. C'est l'occasion pour nous et pour tous les auditeurs de redéfinir d'ailleurs l'intelligence artificielle. Et vous voulez qu'on sorte un petit peu des fantasmes au fond, en arrêtant de parler d'intelligence déjà. Et plutôt, et Pierre Rabhi le dit avec vous, d'aptitudes.
Oui, ce sont plutôt des aptitudes. Les machines, ces dernières années, ont surtout acquis d'énormes capacités de calcul. Mmh. Elles calculent de plus en plus rapidement. Et c'est vrai que souvent, on utilise le terme « intelligence » alors que ces machines sont très loin d'avoir une intelligence humaine. Elles peuvent faire des choses plus facilement que les êtres humains, mais il y a d'autres choses qu'elles ne savent pas du tout faire. Et par exemple, tout simplement pour reconnaître une photo, un enfant va, par exemple, pour reconnaître un animal, va devoir le regarder une ou deux fois. Une intelligence artificielle va devoir être entraînée sur de nombreuses photos pour pouvoir l'identifier. Donc c'est vrai que ce n'est pas le terme. Il y en a beaucoup qui me disaient que ce serait peut-être plutôt intelligence augmentée. Alors oui. Pierre, lui, parle d'aptitude. Plus, c'est vrai que le terme intelligence artificielle n'est pas forcément le bon. Et du coup, ça nous emmène à beaucoup de mythes qui sont très liés à la science-fiction et qui nous amènent à ne pas parler de ce qui est fait aujourd'hui, mais de ce qui sera peut-être fait, et voire peut-être même jamais dans 10, 20, 30 ou 40 ans.
Vous cassez un petit peu ces fantasmes, pour reprendre un terme que vous employez d'abord. La voiture autonome, oui, mais peut-être pas. Et puis ces fameux robots qui remplaceraient les tâches des individus. Alors il y a un chiffre qui est important, notamment vous dites que finalement, il y a à peine, je crois, j'ai ce chiffre sous les yeux, 7% des emplois qui seraient automatisables, robotisables au fond.
Oui, alors c'est parce qu'il y avait une étude qui avait fait très peur en disant que la moitié des emplois allaient disparaître. Oui. Alors en fait, c'est beaucoup moins qui vont disparaître, mais beaucoup vont être transformés. Mm-hmm. Mais derrière l'intelligence artificielle, et ça, il y a beaucoup de chercheurs qui l'ont montré, il y a énormément de petites mains. Donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière l'intelligence artificielle.
Les algorithmes ne naissent pas tout seuls.
Les algorithmes ne naissent pas tout seuls. Il faut récolter les données. Et il y a des gens, on a interviewé des gens en Chine et même en Afrique, au Burkina Faso.
Affreusement mal payés.
Très mal payés. Ces
qui font ce travail de toutes ces petites mains. Et le problème aujourd'hui, c'est que le débat sur l'intelligence artificielle est souvent mal posé. On parle de ce qui va être fait dans 20, 30, 40 ans et ce qui sera peut-être d'ailleurs jamais réalisé, oui. Au lieu de parler des dangers actuels qui sont bien réels, qui sont beaucoup plus insidieux. Et par exemple, moi j'ai été assez surprise dans mon enquête de me rendre compte de l'ampleur prise par les algorithmes de prédiction, on va dire les algorithmes qui vont aider à la prise de décision, mm-hmm. notamment dans les multinationales. On utilise beaucoup tous ces algorithmes-là pour aider à la prise de décision. Et c'est vrai que parfois, l'efficacité de ces algorithmes n'est pas prouvée avant l'utilisation de tous ces algorithmes.
Oui.
Et ce n'est pas parce qu'on peut continuer d'utiliser énormément d'algorithmes d'intelligence artificielle qui fonctionnent mal, en fait, et qui ont énormément d'erreurs de prévision. Donc c'est pareil, dans cette enquête, il y a plusieurs chercheurs qui m'ont expliqué qu'il faudrait certainement plus de transparence et mettre en place même des procédures de validation d'algorithmes, comme on peut l'avoir pour les médicaments, avec les erreurs de prévision. Ça ne veut pas dire de ne pas du tout les utiliser, mais déjà de les utiliser pour quel usage et surtout à quelle fin, et surtout se demander est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser autant d'intelligence artificielle, notamment pour nous cibler.
Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui disent non d'ailleurs, qui ne peuvent pas utiliser ces intelligences artificielles. Et vous soulignez, c'est au cœur, Juliette Duquesne, de votre livre, l'humain au risque de l'intelligence artificielle, combien nos vies, combien nos libertés sont surveillées, sont aliénées. Et vous prenez l'exemple flagrant de la Chine avec la répression sur les Ouïghours qui se fait via les outils numériques d'ailleurs.
Oui, qui se fait via les outils numériques, mais c'est pareil, il y a aussi... Alors ce qui est très difficile des fois d'expliquer dans ce sujet, c'est qu'en même temps, ceux qui critiquent l'intelligence artificielle et ceux qui prônent l'intelligence artificielle, des fois, des deux côtés, on va prêter trop de pouvoir à l'intelligence artificielle. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'on utilise... On utilise quand même l'intelligence artificielle, même quand elle fonctionne mal. Bien sûr que pour les Ouïghours et en Chine, la surveillance via les caméras, etc., va renforcer. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est toujours... D'ailleurs, heureusement que ça ne fonctionne pas toujours très bien non plus. C'est-à-dire que le fait dit social, oui, par exemple, oui. En Chine, quand les chercheurs que j'ai interrogés me disent que ce n'est pas du tout une grande intelligence artificielle qui va noter tous les Chinois. C'est souvent des choses qui sont faites localement et des fois de façon un peu plus informatique et des fois pas vraiment.
Il y a un côté Big Brother qui fait très peur. Hein,
et qui existe.
Dans plusieurs villes chinoises, lorsqu'une personne commet une infraction dans l'espace public, son visage s'affiche sur un panneau jusqu'au paiement de l'amende. Voilà
oui.
comment.
Donc bien sûr, ça existe. Ouais. Et en plus, chez nous, c'est peut-être plus insidieux, mais ça existe aussi d'une autre façon. Ça va aussi. Alors il y a la surveillance qui va être globale, soit par les multinationales que nous, nous utilisons un peu tous. Hein, c'est ouais. difficile dans ce sujet d'échapper complètement à l'outil informatique. Et en plus, il y a énormément aussi de risques insidieux. Ça, j'ai aussi beaucoup aimé cette partie dans mon enquête. C'est le côté qu'on va simplifier, nous, nos comportements. Ça, il y a un philosophe que j'ai interrogé, Jean-Michel Beignet, qui travaille sur ce sujet depuis longtemps, et d'autres acteurs de la société civile. On va simplifier nos comportements pour convenir à la machine et parce qu'on va avoir de plus en plus autour de nous d'outils d'intelligence artificielle et de programmes d'intelligence artificielle. Donc on va simplifier nos comportements,
oui.
on va déshumaniser nos comportements pour convenir à la machine.
Et on va se faire avoir. Par exemple, vous nous dites que quand vous avez observé l'algorithme de YouTube qui faussait le jeu lors des élections américaines de 2016, 80% des vidéos politiques recommandées par YouTube étaient en fait favorables à Donald Trump. Et vous avez l'explication ?
Oui, parce que en fait, tout ce qui était les fake news était plus vu, donc plus c'est vu, plus c'est mis en avant, et donc en fait
on a polarisé le débat.
Voilà, que ce soit Facebook, YouTube, etc., ont besoin de flux, et plus elles ont de flux, mieux c'est. Alors YouTube a changé son algorithme depuis, mais il faut savoir que de toute façon, les grandes plateformes ont besoin de flux, et comme les fake news sont plus vite relayées et plus rapidement, donc deux fois plus relayées et six fois plus rapidement, bah forcément. On va utiliser des fois pour des fins politiques, mais parfois juste pour faire en fait du flux et de l'argent.
Et de l'argent publicitaire. Hein. Google, Facebook, c'est 76% à 2 de la publicité en ligne, par exemple.
Oui, la publicité, c'est très révélateur comme sujet sur l'intelligence artificielle, parce qu'on utilise énormément d'intelligence artificielle pour nous cibler, mais aussi Google et Facebook sont les deux principales de multinationales qui sont financées par la publicité et qui... En plus, finance aussi la recherche. Facebook finance énormément de recherche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, dans mes enquêtes, j'interroge à chaque fois à peu près 80 personnes. Et que dans cette enquête, je n'ai pas eu en interview, alors que dans d'autres, j'arrive à les avoir. Je ne les ai pas eu. Ils m'ont donné des informations par mail. Mais bon, mon enquête a duré plus d'un an. Donc, j'aurais quand même pu les avoir. Les deux seules enquêtes où je n'ai pas eu les multinationales, ce sont la finance et les GAFAM, dont les autres, même l'agroalimentaire, j'avais réussi à avoir Monsanto et autres.
Voilà.
Et là, dans celui-ci...
Il y a donc des choses à cacher.
C'est aussi révélateur, de l'opacité. On a du mal à avoir, même les chercheurs ont du mal à savoir comment les algorithmes sont faits, quels sont les paramètres. C'est très opaque. Et d'ailleurs, ça rend aussi un peu la société encore plus paranoïaque, parfois à juste titre, parce qu'on ne sait pas vraiment comment tout ça est réalisé.
En tout cas, c'est passionnant. Alors, ce n'est que quelques exemples de cette enquête d'un an sur l'intelligence artificielle qu'on vous citait sur Europe 1 ce soir, mais je vous engage vraiment à le lire. Vous apprendrez beaucoup de choses. Juliette Duquesne, c'est la collection Carnet d'alerte que vous avez lancée avec Pierre Rabhi, l'humain au risque de l'intelligence artificielle. Merci d'être venu ce soir sur Europe 1.
Merci.